Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalo, une série de 22 émissions du Père Joseph Sabalo, enregistrée dans les années 90 pour Radio Lapourdi. Par cette rediffusion, Radio Lapourdi rend hommage au Père Joseph Sabalo, originaire d'Asparin, qui est décédé le 5 novembre 2019. Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalo, troisième épisode, Alexandrie.
Alexandrie, tel un phare. Vous m'aurez pardonné l'évocation trop facile de la merveille du monde élevée dans l'île de Pharos que je donne comme titre à ce troisième entretien. Dans le nocturne océan des âges, c'est en effet comme un extraordinaire foyer de lumière que se présente Alexandrie. Sur les 6 premiers siècles de la vie de l'Église, cette ville mythique, fabuleuse, a jeté le plus vif éclat. Elle est née de la volonté d'Alexandre, qui en 331 avant Jésus-Christ, à 25 ans au galop, avant de se jeter dans ses 8 dernières années de conquête, fit d'un port de pêcheurs qui s'appelait Rakotis, une ville et un port de commerce et de guerre. Après le partage de son empire entre ses lieutenants, les Ptolémées Lagides en firent leur capitale. Et très vite, elle excita l'admiration universelle. C'est particulièrement au deuxième roi de la dynastie grecque, Ptolémée Philadelphe, qui régna de 285 à 246, qu'elle dut sa grandeur et sa beauté. Il fit d'Alexandrie la capitale intellectuelle du monde oriental. Grâce à son musée célèbre, lieu de séjour, de rendez-vous et de travail, des étudiants, des savants et des artistes, à sa bibliothèque d'une richesse telle qu'il n'y avait pas son égal dans le monde, elle comptait plusieurs centaines de milliers de livres, le renom de cette ville s'imposa à la Grèce et à Rome même, comme un centre de civilisation sans pareil. Là travaillèrent des mathématiciens comme Euclide, celui du postulat, l'inventeur de la géométrie classique, et Apollonios de Perga, des astronomes comme Ératosthène, des géographes comme Ptolémée, des philosophes comme Philon, Ammonius Saccas, Plotin, Porphyre, Jamblique, Proclus, des gnostiques comme Basilide. Philon doit arrêter notre attention, parce que c'est un juif pieux et mystique qui écrivait par exemple « Le juste, quand il cherche la nature des êtres, fait cette seule et admirable découverte que tout est grâce. Tout ce qui est dans le monde entier lui-même, tout est bienfait et générosité de Dieu. » Et surtout parce que sa théorie du logos, pensée de Dieu, archétype de la création, âme du monde, concilie avec la tradition mosaïque des principes fondamentaux de la philosophie de Platon et des stoïciens. En arché en hologos, hologos en prostanteon. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu. Tout ce qui a été fait par lui. Sans lui, rien n'a été fait. Il est impossible que Philon n'ait pas influencé l'auteur du quatrième évangile que nombre de critiques ont vu appartenir au milieu alexandrin. Plotin, dont le nom compte parmi les plus illustres de la philosophie, le maître du néoplatonisme, exprime lui aussi de profondes inquiétudes spirituelles. Il est plus tardif, c'est un contemporain d'Origène, le grand théologien du IIIe siècle. il ne fait pas de doute que le courant auquel il appartient noue avec la pensée chrétienne de constantes relations. Mais entrons sans davantage tarder dans le vif de notre sujet. La vie de l'Église à Alexandrie et son rayonnement. Nous parlerons successivement des maîtres du Didascalé, et plus particulièrement de Clément et d'Origène, ensuite des pères du désert et des débuts du monachisme, puis des docteurs des querelles christologiques et plus particulièrement d'Athanase et de Cyril. Et enfin, nous verrons l'Égypte passer sous le joug de l'islam. Les débuts du christianisme à Alexandrie. Une tradition dont témoigne l'historien Eusèbe de Césarée, qui vécut de 260 environ jusqu'en 340, et Saint Jérôme, qui lui vécut de 347 à 420. Cette tradition fait de l'évangéliste Saint Marc le fondateur de l'église d'Alexandrie. Le premier évêque de la ville, dont on soit certain, n'apparaît qu'à la fin du IIe siècle, en 189. C'est un certain Démétrios, qu'on ne connaît que par sa brouille avec Origène. Mais il est hors de doute qu'il y eut avant cette date, à Alexandrie et ailleurs en Égypte, des communautés chrétiennes régies par un presbytérium, un collège de prêtres ou anciens. Le christianisme y fit de rapides progrès. Dès le début du IIIe siècle, on le voit répandu dans une grande partie de la vallée du Nil. En 320, le synode d'Alexandrie, qui condamna Arius, réunit une centaine d'évêques, déjà. Alexandrie était, nous l'avons dit, un centre intellectuel d'une activité et d'un rayonnement exceptionnel. Ses écoles étaient célèbres dans tout l'Empire, le musée, le Sérapion, l'école juive. À côté d'elle apparaît un centre de formation chrétienne, matériellement bien pauvre et modeste, avec seulement un maître, quelquefois deux, pour traiter de tout, des sciences profanes comme de la religion. Mais à sa tête, on va voir des hommes d'une telle envergure, d'une telle culture et d'une telle personnalité que cette pauvre école acquiert un extraordinaire prestige, c'est le Didascalé. Du grec didaskaleion, qui signifie l'école. De ces didascales, de ces maîtres, deux surtout exigent notre attention. L'un est Clément d'Alexandrie, l'autre Origène. Clément d'Alexandrie. Parti d'Athènes, où il était né vers 150, Clément parcourut le monde à la recherche de la vérité. Il la trouva auprès de Pantène, le maître du Didascalé d'Alexandrie. Il le seconda, puis lui succéda. Au début du IIIe siècle, pressé par la persécution de Septime Sévère, il trouva refuge en Cappadoce auprès de l'évêque Alexandre, qui était de ses anciens élèves. Il exerça le sacerdoce avec la réputation d'un saint. Longtemps, il a figuré dans le martyrologe. Fénelon, en particulier, le lisait, l'admirait, le priait avec dévotion. Mais en 1748, le pape Benoît XIV, un pape des Lumières, a retiré son nom de la liste des saints. Un de ceux qui l'ont le plus étudié, Étienne Lefaille, dit que son œuvre est à la fois la plus importante et la plus difficile de toute la littérature chrétienne des IIe et IIIe siècles. Elle tient pour l'essentiel dans trois livres, le Protreptique, qui est un traité de la conversion, le Pédagogue, qui analyse les questions de morale, les Stomates, ce mot veut dire tapisserie, qui touche au dogme d'une manière passablement désordonnée et diffuse. Clément d'Alexandrie a une foi pleine, entière et enthousiaste. C'est un mystique, une âme contemplative, sans cesse tendue vers le ciel. Pourtant, plus qu'aucun autre, il se montre accueillant pour la culture profane. Il cite à profusion les auteurs païens. Ses œuvres ressemblent à une immense anthologie raisonnée qui entrelace les poètes grecs, les philosophes, la Septante et le Nouveau Testament. Bien loin de mépriser la philosophie, il y voit un autre Ancien Testament, à l'usage des gentils cette fois. C'est une école de justice et de vérité qui prépare à recevoir la révélation du Logos, du Verbe incarné. Mais le plus troublant dans sa doctrine, c'est qu'il distingue deux catégories de croyants, ceux dont la foi est ignorante et ceux qui ont accédé à la gnose, à la connaissance de vérités supérieures qui ne sont pas accessibles à tous les chrétiens, mais au petit nombre des privilégiés. Il y a, écrit-il, un premier changement salutaire, c'est la conversion de la gentilité à la foi, et en second, la conversion de la foi à la gnose. Et de même, dans l'autre monde, il y a deux bercails, l'un réservé aux gnostiques, l'autre ouvert aux simples fidèles qui, bien que sauvés, souffriront de l'infériorité de leur sort et y trouveront leur plus grande peine, celle de ne pas être avec ceux qui sont glorifiés pour leur justice. Origène. C'est une figure haute et pathétique que celle d'Origène, qui vécut de 185 à 254. Il appartient à la race propre à la Grèce antique de ces esprits supérieurs, royaux dans le domaine de la pensée, qui sont en même temps de merveilleux éducateurs, comme Socrate, Pythagore, Épicure, Épictète, Plotin. Les évêques les plus remarquables, les meilleurs théologiens de l'époque, Firmilien de Césarée de Cappadoce, Alexandre de Jérusalem, Théoctiste de Césarée de Palestine, Héraclas, Denis d'Alexandrie, plus tard Basile et Grégoire de Naziance, commencent par être ses élèves ou ses disciples. Le moins enthousiaste n'est pas Grégoire le thaumaturge, qui fait de lui cet éloge saisissant. Il interprétait les prophètes, éclaircissait tous les passages obscurs et énigmatiques, comme il en est beaucoup dans les Saintes Écritures. Il éclairait et amenait à la lumière toutes les énigmes qu'il rencontrait, parce qu'il savait écouter Dieu et le comprendre. On eût dit que ces énigmes n'avaient pour lui rien d'obscur, rien qu'il ne comprît. Entre tous les hommes qui sont aujourd'hui, tous ceux que j'ai connus ou dont j'ai entendu parler, il n'y en avait pas un qui sût comme lui contempler la pureté des oracles divins, les recevoir lumineux dans son âme et les enseigner aux autres. C'est que le chef universel, celui qui se fait entendre des prophètes aimés de Dieu et qui inspire tout prophète, tout discours mystique et divin, l'honorait comme un ami et l'avait établi comme maître. Ce don magnifique, cet homme l'a reçu de Dieu. Il tient du ciel cette destinée admirable d'être auprès des hommes l'interprète des paroles de Dieu, de comprendre ce que Dieu a dit comme Dieu le dit et de l'exposer aux hommes comme les hommes peuvent entendre. Ainsi, rien n'était pour nous ineffable, ni caché, ni inaccessible. Nous pouvions entendre toute parole, barbare ou grecque, mystérieuse ou publique, divine ou humaine. Nous pouvions en toute liberté tout parcourir, tout scruter, tout nous rassasier et jouir de tous les biens de l'âme, que ce fût un antique document de la vérité ou de quelque autre nom qu'on veuille l'appeler. Nous en tirions abondamment, en toute liberté, des vues admirables et magnifiques. Exceptionnel donc était le maître, admirable aussi le prédicateur. Ordonné prêtre à Césarée après sa brouille avec son évêque et son éloignement d'Alexandrie, il y prêcha chaque jour, puis deux fois par jour, puis davantage encore, expliquant et commentant la Bible avec un zèle inlassable à un peuple avide de ses leçons. Sa connaissance de l'Écriture était stupéfiante. C'est le premier des exégètes. Avec un extraordinaire souci critique, il mit en parallèle six versions de la Bible. Une hébraïque, et 5 grecs, ce sont les hexaples, les sextuples. À l'étude de la Bible, il appliqua la méthode symbolique qui voit dans les personnes, les objets et les faits de l'Ancien Testament les types ou figures du Nouveau et cherche dans l'ordre terrestre les images et les reflets des réalités divines. Son traité des principes, le Périarchon, est la première somme théologique de l'histoire chrétienne. Le Contra Celsum, son ouvrage peut-être le plus connu, fournit en faveur de la vérité chrétienne un arsenal de considérations et de preuves, les prophéties, les miracles, la résurrection, le témoignage des apôtres et des martyrs, que les âges suivants ne feront que répéter. Sa vie fut constamment héroïque. Il était l'aîné de 7 frères et encore adolescent, lorsque, sous la persécution de Septime Sévère, au tout début du IIIe siècle, à l'époque où mouraient aussi à Carthage Perpétue et ses compagnons, son père Léonidès fut arrêté. Origène brûlait de partager son sort. Il ne cessait de visiter les prisonniers, de les encourager à demeurer fermes dans la foi. Sa mère cachait ses habits pour essayer de l'en empêcher. Son père décapité, pour nourrir sa mère et ses 6 petits frères, il se mit à donner des leçons. Il n'avait que 18 ans. Et avec un tel succès que l'évêque Démétrios le mit à la tête du Didascalé pour succéder à Clément. Si jeune et si incroyablement cultivé, il eut beaucoup d'admirateurs et aussi de jeunes admiratrices, ce qui le détermina à suivre à la lettre les consignes évangéliques. Si tel membre te scandalise, arrache-le. Il y en a qui se sont fait eunuques à cause du royaume de Dieu. Vertueuse exagération de jeunesse, que plus tard il condamnera. Pendant une trentaine d'années, Origène demeura à la tête du Didascalé. Vers 230, un synode, réuni par l'évêque Démétrios, le condamna. On a dit que la jalousie de l'évêque pesa sur cette décision, et aussi son dépit qu'Origène ait été ordonné prêtre sans son autorisation. Mais il faut avouer que certaines des thèses du célèbre docteur étaient suspectes. Ainsi, selon lui, le Fils et le Saint-Esprit sont inférieurs au Père. « Mon Père est plus grand que moi », dit Jésus lui-même dans Saint Jean. C'est le subordinationnisme. Ou encore, d'après lui, les âmes sont éternelles, modo divino, ante hanc vitam. Le monde sensible n'est pour elles qu'un lieu de purification. Il prendra fin quand toutes auront été rétablies dans leur pureté originelle. Tout s'achèvera dans une réconciliation générale, universelle. C'est la théorie qu'on appelle de l'apocatastase. La sentence de condamnation fut communiquée à tout l'épiscopat. L'évêque de Rome, Poncien, y souscrivit comme beaucoup d'autres. Par contre, de nombreuses églises de l'Orient chrétien soutinrent Origène. C'est le début d'une longue querelle qui connaîtra son heure la plus vive avec une autre figure elle aussi admirable et pathétique, celle de Jean de Constantinople, plus habituellement connu par son surnom le Chrysostome, qu'on condamnera pour origénisme. Cependant, Origène se retirait en Palestine, où il exerça le ministère dont nous avons parlé. Sa fin eut le caractère héroïque de toute son existence. Au milieu du siècle, le IIIe, se déchaîna la persécution de Dèce, celle qui emporta Saint-Cyprien, nous en parlions l'autre fois. Le vieil ami d'Origène, Alexandre de Jérusalem, mourut en prison. Origène lui-même fut emprisonné et mis à la torture. Le démon méchant en fit d'une manière spéciale le but de ses efforts, écrit à ce propos l'historien Eusèbe de Césarée. Chaînes et tortures, supplices endurés sur tout le corps, supplices infligés par le fer, supplices des cachots au fond de la prison. Pendant nombre de jours, il fut mis les pieds dans les ceps au quatrième trou et menacé du feu Relâché, il mourut peu après, en 254, des suites de ses tortures. Les pères du désert. Parmi les conceptions d'Origène, il y en a une qui, sans aucun doute, doit être tenue pour l'une des sources d'un formidable mouvement qui va se développer au IVe siècle, une fois la liberté de l'Église obtenue et l'ère des persécutions achevée. Ce mouvement, c'est la naissance et le développement du monachisme, l'appel du désert. Dieu qui seul est bon, pensait Origène comme les néoplatoniciens, a créé des êtres bons et purs. Et pourtant, il suffit d'un regard jeté sur le monde pour reconnaître qu'il est souillé. Toutes ces souillures viennent d'une déchéance originelle. Les âmes qui vivent dans la matière doivent s'y purifier de fautes commises dans une vie antérieure. La faute initiale a consisté dans un oubli de Dieu. L'âme créée par lui pour le contempler a laissé se détendre en elle l'élan de cette contemplation première. Elle s'est dispersée, se complaisant en elle-même et se laissant séduire par les créatures. La tâche de toute sa vie ici-bas sera de se dégager de cette multiplicité des choses, de se recueillir pour s'unir à Dieu. Bornemann l'a très bien vu dans un ouvrage qui date de 1885, In Investiganda Monachatus Origine, Quibus et Causis Ratio Habendae Sit Origenis. Donc sur l'origine du monachisme et sur l'influence d'Origène à cet égard. C'est vrai que les vues d'Origène et d'autres vont commander une spiritualité, celle des pères du désert, qui n'est pas sans nous marquer encore, nous chrétiens d'aujourd'hui. En 313, l'édit de Milan permet la libre expression et la libre expansion de la foi chrétienne. De persécuteur, l'empereur, c'est Constantin le Grand, devient le protecteur et le bienfaiteur de l'Église. Avec l'ère des martyrs, l'héroïsme chrétien a-t-il pris fin? Tout se passe comme si le monachisme en prenait le relais. À la racine de ce terme, il y a le mot « monos », plus « ako akein », s'affliger. Seul. Le moine vit seul, devant Dieu seul. C'est le cri du prophète Élie, « Vivit Deus in cuius conspectus to », il vit le Dieu devant qui je me tiens. Si l'homme ne dit pas dans son cœur, « Moi seul et Dieu sommes en ce monde », il n'aura pas de repos, disait Abba Alonios. Ce mouvement s'était amorcé vers la fin du IIIe siècle. Mais c'est au IVe que, suivant une formule un peu hyperbolique, le désert se peuple d'ermites. D'abord à l'ouest du delta, à Nitri, à Kélia, à Sété, au Adinatrum, ou plus haut du côté de Pispir, dans le désert d'Égypte. Avant la fin du IVe siècle, écrit Pallade, l'auteur de l'histoire Lausiaque, Nitri comptait 5 000 moines, lesquels il y a 600. Il y a 7 000 moines dans la communauté de Saint-Pacôme. Et puis, le monachisme se répand en Palestine, en Syrie, en Asie mineure, en Grèce et un peu partout dans le monde chrétien. La vie des pères du désert se trouve enrobée par la légende dorée dès le IVe et le Ve siècle avec les vies de saint Antoine par Athanase et de saint Paul ermite par saint Jérôme. Et il n'est pas facile de se la représenter avec exactitude. Lucien Regnault, qui a fourni à la collection de chez Hachette la vie quotidienne des pères du désert en Égypte au IVe siècle, note que les moines étaient presque tous coptes de race et de langue, venant pour la plupart de la classe paysanne, accoutumés à une vie dure et laborieuse, à un régime frugal et à l'absence de tout confort. Ils s'établissent dans un abri rudimentaire, un trou de rocher, une tombe abandonnée, une cahute qu'ils construisent, vivent de pain et d'eau et se consacrent à la prière, à la veille et à la méditation. Ceux dont la sainteté est réputée s'attachent des disciples, et quoique la vie solitaire passe toujours pour la plus méritoire et la plus éprouvée, une évolution se dessine vers la vie commune, cénobitique, que s'appliquent à codifier et organiser en Saint Pacôme ou en Saint Basile, deux siècles avant que Saint Benoît ne donne la fameuse règle qui déterminera l'idéal et la vie des moines d'Occident. Les querelles christologiques. Ce grand IVe siècle qui voit se développer le monachisme voit aussi se déchaîner la querelle christologique. Elle touche, au fond, à l'essentiel de la foi chrétienne. Elle n'a cessé, dans la vie publique du Christ, d'interroger le chrétien. « Qui dites-vous que je suis ?» La nature de Jésus, sa relation avec la divinité, c'est une question capitale sur laquelle se font jour, dès les tout premiers siècles, des options comme l'adoptionnisme ou le sabellianisme ou le docétisme que l'Église, dans son ensemble, dans la masse des évêques et des fidèles, a rejeté. L'arianisme connaîtra une toute autre fortune. Il s'en est même fallu de très peu que le christianisme ne soit devenu arien. Arius était né en Libye vers 260. Venu jeune à Alexandrie, il devint diacre en 308, prêtre en 310 et fut curé de l'église de Bocalis, l'un des quartiers de la ville. Son prestige et son rayonnement étaient considérables. Son beau visage émacié, son air d'austérité modeste, la sévérité paisible et vibrante de ses paroles, tout en lui était fait pour séduire. Savant, merveilleux prédicateur, doué pour la dialectique comme pouvait l'être l'oriental pétri d'esprit grec, on le disait vertueux, dur à soi-même, à donner aux pénitences et aux ascèses, il attirait les foules, sa doctrine et ses propos se répandirent abondamment. « Il n'y a qu'un Dieu, disait Arius, simple, non composé, incommunicable. En dehors de lui, tout est créature. Le Christ, Verbe de Dieu, incarnation de la sagesse, agent de la création, en qui et par qui et pour qui tout a été fait, a été tiré du néant par la volonté de Dieu avant tous les siècles, avant que le temps fût. Il nous donne l'exemple d'un homme qui s'est élevé à la perfection par le libre effort de sa volonté et qui a mérité d'être ce que chaque homme pourrait être, le Fils de Dieu. Jésus, le Christ, n'est pas Dieu en soi, par essence. Il l'est devenu par son héroïsme, sa sainteté, ses mérites. Tout cela étant la preuve d'un choix unique d'une prédilection de Dieu. Nous lisons bien dans les Romains, Jésus-Christ notre Seigneur a été établi Fils de Dieu avec puissance, établi selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Et Jésus lui-même dit dans Saint Jean, « Mon Père est plus grand que moi ». La question arienne va empoisonner la vie de l'Église pendant trois siècles. Indépendamment d'une certaine logique que présente cette hérésie, elle va disposer de deux atouts. D'une part, l'appui déterminé de certains empereurs. D'autre part, l'adhésion des masses barbares. En effet, le grand apôtre des barbares, l'un d'entre eux, Ulfila, a été converti au Christ dans les milieux ariens de Cappadoce et de Constantinople. Au IVe, surtout au Ve siècle, la masse des Goths et des Vandales va adhérer aux conceptions d'Arius. Dans l'immédiat, Arius se heurta à la forte opposition de l'évêque d'Alexandrie, Alexandre, lequel avait à ses côtés un diacre de 20 ans qui allait devenir le plus rude, le plus obstiné et le plus héroïque adversaire de sa doctrine, le plus intraitable champion de la divinité de Jésus, le grand Athanase, l'un des principaux acteurs du concile de Nicée et l'un des plus célèbres docteurs de l'Église. Il vécut de 295 à 373. Emprisonné, battu par la police impériale, exilé à 5 reprises, successivement par Constantin, Constance, Constant, Julien l'Apostat et Valens, sauvé par les ermites du désert auprès desquels il se réfugie, il résiste malgré tout. Homo usios, consubstantialem patri, de même nature que le Père, voilà ce qu'est le Verbe, et non pas seulement semblable, homo usios. L'égalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre foi trinitaire, conforme au premier et deuxième concile écuménique, ceux de Nicée en 325 et de Constantinople en 381, c'est en bonne partie à ce grand pape d'Alexandrie, à Athanase, que nous le devons. Il faudrait un temps infini pour suivre tous les détails des interminables querelles christologiques. Mais il y a un autre Athanase sur lequel il est impossible de faire l'impasse, le patriarche ou pape Cyrille, avec Clément, Origène et Athanase, l'un des plus grands noms de l'histoire chrétienne d'Alexandrie. Sa mémoire est liée au concile d'Éphèse en 431, comme celle d'Athanase au concile de Nicée en 325. L'hérésiarque que Cyrille combat est Nestorius, un moine originaire d'Antioche, devenu patriarche de Constantinople. Nestorius distingue assez nettement le Christ, l'homme et Dieu, pour y voir deux hypostases, nous dirions deux personnes. En tout cas, et c'est un point sur lequel Nestorius insiste, on ne saurait dire de la Vierge Marie qu'elle est Théotokos, mère de Dieu. Elle est simplement la mère de l'homme Jésus. Cyrille combat Nestorius avec une férocité inouïe, en mobilisant pour sa cause ses évêques suffragants et des hordes de moines disposés à toutes les violences. Il réussit à faire déposer et exiler par l'empereur le patriarche de Constantinople qui finit ses jours dans les déserts d'Arabie puis d'Égypte. Formé à l'école de son oncle, le terrible Théophile, persécuteur intraitable de Saint Jean Chrysostome, Cyrille s'était fait la main contre les Novatiens et contre les Juifs, qu'il avait abondamment dépouillés les uns et les autres. Contre le préfet Oreste, sa bête noire, et contre l'ami du préfet, la savante et vertueuse Hypatie, mathématicienne et philosophe néoplatonicienne du plus grand renom. C'est en mars 415 que fut commis ce crime abominable. Excité par un lecteur chrétien, une bande de fanatiques arracha à son char la divine Hypatie qui se rendait au cours qu'elle professait. On l'entraîna dans une église où on la dépouilla de ses vêtements et la mit en morceaux. Le pape Cyrille n'est sans doute pas directement responsable de cet horrible assassinat, il l'est de l'ambiance d'intolérance fanatique qui régnait sur Alexandrie. Pendant 3 siècles, notons-le en passant, du 4e au 6e siècle, le patriarche d'Alexandrie, auquel on donnait du reste le nom de pape, comme on l'a fait ailleurs à d'autres évêques, a été un extraordinaire potentat. Gouvernant l'Égypte, la Libye et la Pentapole, il imposait à la centaine d'évêques qu'il dirigeait une discipline dont on a pu dire que l'absolutisme en était calqué sur celui des pharaons. Extrêmement riche, propriétaire de biens innombrables, armateur naval qui contrôlait le commerce du pays, donateur fastueux au crochet de qui vivaient des milliers de pauvres, véritable guide du nationalisme égyptien, on ne savait dire s'il ressemblait davantage au pharaon ou au grand prêtre d'Amon-Ra. Comment a-t-on pu considérer Cyril comme un saint? Comment lui réserve-t-on un culte? L'Église universelle le célèbre le 27 juin. Un culte qui est refusé à quelqu'un comme Origène. Il est certain qu'on aura reconnu sa foi et son œuvre théologique considérable plutôt que sa charité. L'Église retient comme son troisième concile œcuménique celui d'Éphèse en 431, qui fut son œuvre et qui marqua le triomphe de la Théotokos. Il ne faut pourtant pas s'imaginer que la querelle christologique s'acheva à Éphèse. Les Antiochiens combattaient Cyril, qu'ils voyaient pencher vers le monophysisme. Il dut renoncer à certaines de ses formules, par exemple ne plus parler du Christ comme de monogène, comme étant d'une seule nature, pour aboutir à un acte d'union qui tempéra l'ardeur des joutes théologiques. Pour peu de temps, la tendance monogène ou monophysite, celle suivant laquelle il n'y a qu'une seule nature dans le Christ, manifeste chez Cyril, s'accuse chez ses successeurs, Dioscore, Timothée Laëlure, Pierre Monge. Les patriarches alexandrins rejettent les décisions du concile de Chalcédoine, qui, en 451, avait condamné Eutychès. Ils se coupent de l'église de Constantinople aussi bien que de celle de Rome, et l'on assiste au déclin d'Alexandrie, qui perd sa prédominance au profit de la capitale de l'Empire, Constantinople. Et voilà qu'en 642, 4000 cavaliers arabes, conduits par le général Aour pour le compte du calife Omar, deuxième successeur du prophète, s'emparent d'Alexandrie. De chrétienne, l'Égypte devient musulmane. Et dans ce monde nouveau, le Caire, que fonde le général vainqueur et qu'agrandissent les Fatimides au Xe siècle, prend la place d'Alexandrie comme centre de la vie publique. Alexandrie ne disparaît pas pour autant de l'histoire. Une histoire qu'auront habité Saint-Louis, Bonaparte et Ferdinand de Lesseps, parmi d'autres Français. Depuis le percement du canal de Suez, elle est de nouveau un grand port. Moins orientale d'ailleurs, plus européenne qu'aucune autre ville d'Égypte. Et le christianisme non plus ne meurt pas, quoiqu'il rencontre bien des difficultés. Cette église copte, monophysite, qui compte près du cinquième, 18 à 20% de la population égyptienne.
Histoire de l'Église, une émission proposée par le Père Sabalo, c'est une rediffusion des 22 émissions réalisées par le Père Joseph Sabalo dans les années 1990 pour Radio Lapourdi. La semaine prochaine, quatrième épisode, Constantinople.